Il y a marqué que dans...
Bon, amen. Là, on va être sérieux, là. Faut pas rire dans l'église, hein. C'est une place sérieuse, puis on n'est pas supposé de rire, là. Hey, on est rendu... Vous savez, la semaine passée, on a commencé à considérer les 12 apôtres. On a vu le cercle intime, Pierre-Jean-Jacques. Dites-vous ça en anglais? Nous, des fois, on dit oh, Pierre-Jean-Jacques, puis tout. Ouais, on dit ça vite de même, tu sais. Même, on a des expressions québécoises, hein. Prendre de la poche à Pierre, donner dans Jacques, tu sais. Non, mais c'est vrai, comme, tu sais, pour... Tu sais, de l'argent, dans le fond, si je te donne à toi, puis tu sais, en voulant dire que ça revient au même, là. Tu sais, mettons, dans l'église, en tout cas, t'as jamais entendu ça? Bon, en tout cas. Bon, donc, nous sommes dans Jean 1. On va lire les versets 41 à 42, parce que ça parle de celui dont on va parler en premier ce soir. On continue à les considérer un par un. Alors, on va commencer à 40. André, c'est lui, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ, et le conduisit vers Jésus, l'ayant regardé, dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et donc, on continue où est-ce qu'on a laissé. La semaine passée, on a vu les apôtres, rappelez-vous, on a dit que leur grande qualité, c'était qu'ils étaient disponibles, ils étaient malléables dans les mains de Dieu. Okay? Et on continue, ça c'était le cercle intime. Rappelez-vous, on avait dit aussi que c'est les caractères pas mal forts. On a vu hein, les fils de tonnerre, puis Pierre, on le connaît, son caractère. C'était les plus proches de Dieu probablement parce qu'ils avaient besoin d'être plus gardés en laisse. Parce que, okay? Ici, on a André qui est différent. André, je dirais... pour le qualifier, ce serait l'ouvert d'esprit, OK? Dans le bon sens du terme. Son nom, vous savez, on dit André, Andros, Andropos, OK? Ça veut dire homme ou un masculin, manly. Peut-être que c'est un colosse ou tel. En fait, quand ses parents, il est né, peut-être bien, en tout cas. Il s'appelait André. On vient de le lire, c'est le frère de Pierre, probablement son petit frère. Parce que je continue de penser que Pierre était probablement l'aîné du groupe de tous les apôtres. Ici, on voit, c'est le premier à être appelé par Jésus et il a introduit Jésus à son frère Pierre. Et il était bon là-dedans parce qu'il a aussi introduit les Grecs à Jésus puis le petit gars avec son lunch. C'était l'introducteur à Jésus-Christ. Okay? On le voit beaucoup faire ça. Il présente les gens à Jésus. Il est connu pour ça, André. Il n'était pas dans le cercle intime, mais il a été présent lors d'un discours exclusif de Jésus-Christ sur la destruction du temple, les temps de la fin. Tu sais, quand il regardait les structures, puis là, il parlait, regarde les belles, le temple, comment il est grand, puis ça. Puis là, Jésus dit, pas Pierre sur Pierre qui va rester. Puis là, il a commencé à leur parler de la fin des temps. André était là. Il n'y avait pas juste Pierre-Jean-Jacques. André était là pour ce discours-là. On apprend ça dans Marc 13. Il a été crucifié environ en 60 après Jésus-Christ, mais il ne se considérait pas digne, comme son grand frère d'ailleurs, il ne se considérait pas digne de mourir comme Jésus-Christ. Donc, lui, il a été crucifié en forme en croix. Okay? C'est pour ça, ceux qui sont dans la construction, vous avez peut-être entendu des croix de Saint-André. OK? C'est-à-dire, nous, on avait ça dans notre ancienne maison. C'est dans la construction, c'est des croix. Mais on avait ça des croix parce que Saint-André, André, a été crucifié comme ça. C'est de là que ça vient.
Le drapeau écossais aussi.
Le drapeau écossais aussi parce que c'est le patron des Écossais, c'est vrai. C'est vrai. Donc, c'est devenu le symbole d'André. Puis aussi... Il était un disciple de Jean-Baptiste, parce que ça dit ici, on l'a vu, André, frère de Simon-Pierre, l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, OK? Donc, Jean-Baptiste qui avait dit, hein, le Messie, hein? Donc, de par le ministère de Jean-Baptiste, OK, il a été conduit à Christ, fait que peut-être qu'il avait appris l'idée, il a été conduit à Christ par le ministère de Jean-Baptiste, puis lui, bien, il conduisait d'autres à Christ, OK? C'est comme si le pattern se continuait. Maintenant, au niveau de son tempérament, on voit d'appréciation comment qu'il est, qu'il avait l'air, il devait probablement être beaucoup plus réservé que son grand frère. Mais c'est vraiment un type de personne fiable vers lesquelles les gens se tournaient. Les Grecs sont allés le voir, avec le petit lunch. Peut-être quelqu'un d'attentionné qui a vu. Tout le monde, à l'époque, là, dans ce jeu, les enfants, tout le monde s'en fichait pas mal. Là. Lui a manqué le petit gars avec le lunch, puis tu sais, ça montre quelque chose sur son caractère. Et son influence pour amener les autres à considérer Jésus. Il les conduisait à Jésus. OK? Quelle belle image. J'aime beaucoup l'image de ce qu'on a quand on voit André. Certainement, il avait un désir pour Dieu, de grandir dans la connaissance de Dieu, qui l'ont poussé à suivre Jean-Baptiste, puis ensuite suivre Jésus-Christ. Fait que déjà, on voyait, il y avait... Dieu faisait un œuvre dans sa vie, il avait un intérêt pour les choses de Dieu. Il a commencé avec Jean-Baptiste, puis ensuite il est arrivé à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis ici, il dit, nous avons trouvé le Messie, hein, ce qui signifie Christ, donc celui qui était promis. Il y avait aussi un discernement spirituel aiguisé. Il discernait les choses, il savait amener les choses à un bon. Comme justement avec le petit gars avec le lunch. C'est un petit lunch de même avec Dieu, il est capable de faire quelque chose avec ça. On voit quelque chose sur lui là-dedans. Puis il y avait, je pense, un sens fort de la conviction. Puis tout ça, il dit, va Jésus, c'est lui la solution. Puis c'était contagieux. C'était le genre de gars qui croyait que Jésus était la solution à tout. Puis il convainquait les autres aussi qu'il l'était, tout ça. Qu'il influençait les autres comme ça à aller à Jésus-Christ. Vous avez ce type de tempérament comme André. Moi, j'aime bien mon oncle André. Ça a été comme un père pour moi. André, c'est quelqu'un qui a vécu dans l'ombre de Pierre, dans le fond. Puis même, on pourrait dire de Pierre-Jean-Jacques, OK? Mais néanmoins, il est une personne clé dans la compagnie apostolique. Dave, t'as rien dit. Des fois, je te disais ça la semaine passée, j'ai jamais entendu ça. Et là, tu es habitué à l'expression. Il était quand même clé. Donc, il n'était pas le gars en avant, mais il faisait l'affaire, puis ça, plus en arrière, puis tout ça, puis il exerçait le ministère auquel Dieu l'appelait. De façon efficace pour l'Évangile. Et il était déterminé, il était simple, il était sincère et il communiquait la vie de Jésus-Christ en amenant simplement les gens à Jésus-Christ. Et donc, si vous êtes quelqu'un comme ça, même si ce n'est pas celui qui a la parole le plus facile, qui est le plus à l'avant, vous êtes plus du genre à être dans l'ombre des autres, ce n'est pas grave, vous pouvez être utilisé par Dieu pour... amener les gens à Christ, c'est pas plus compliqué, c'est juste qu'on a à faire. Juste leur introduire celui qui est la solution à tout. C'était la conviction d'André. Maintenant, on n'ira pas voir toutes les références là, parce que ça serait trop long, mais Philippe, écoute, on va parler de toi. Non, ou quelqu'un qui a passé un petit peu avant toi. Je dirais, OK, il va dire en québécois, le questionneux, l'inquisiteur. Philippe, c'est celui qui posait des questions. Son nom est grec, donc ça nous suggère peut-être pourquoi... Bon, c'est un juif, là, mais il a un nom grec. Peut-être pour ça qu'il y avait, une certaine connexion à ce peuple, peut-être par sa parenté, un de ses deux parents. Puis c'est lui, d'ailleurs, il était avec André, avec les Grecs, là, tu sais, justement. Fait que peut-être qu'il y a de la famille qui était juif, mais qui était en Grèce, puis comprenez-vous. Fait que c'était avec cet entourage-là que les Grecs sont arrivés, puis ils ont dit... Sir, we would see Jesus. Ça, c'est, j'ai déjà entendu des messages là-dessus. Je ne sais même pas comment ça le dit en français. En tout cas, quand il a dit, nous voudrions voir Jésus. Et donc, c'est ça. Et donc, on voit ici la connexion avec le monde grec pour Philippe. Il est de Bethsaida, comme André et Pierre. Il est né là. Mais là, il ne faut pas se mêler. OK, c'est ça qui est mêlant des fois quand on étudie les personnes de même. Il y a des noms qui se recoupent. Le Philippe ici des Évangiles, ce n'est pas le Philippe du livre des Actes. Le Philippe du livre des Actes, c'est un diacre. C'est un juif aussi, aussi dans le monde grec, mais c'est pas le même. L'autre, c'est Philippe l'évangéliste. Okay? Philippe l'apôtre, puis Philippe l'évangéliste. Faut pas confondre les deux. Okay? Il est connu aussi, Philippe, c'est lui qui a amené Nathanaël à Jésus-Christ. Hey, ça fait bizarre de dire ça un matin, à soir. Tellement bizarre que je me rappelle plus si on est le matin ou le soir. Hein? Ouais, c'est ça, il y a un nom à l'envers. Il a été mis à l'épreuve par Jésus-Christ au moment de la multiplication des pains pour les 5000 personnes dans Jean 6. Jésus, c'est lui qui a interpellé, il dit donnez du pain, du pain, 5000 personnes, c'est comme, tu sais. Bon, Jésus mettait sa foi à l'épreuve. Ce qui suggère peut-être que c'était le genre de gars pensif, analytique. C'est moi, hey Philippe, comment on va nourrir 5000 personnes? Là, il a dû se gratter la tête. Puis peut-être qu'il a sorti sa calculatrice. Ou son bolot, là, son boulier, là, pas bolot, boulier. Il y avait un boulier de poche, puis 5000, ça marche pas, là, il va manquer. Il s'est viré vers Judas, comment qu'on a d'argent là, dans la petite poche d'argent, puis il y a quelque chose qui marchait pas. Okay, c'est lui, Jésus, que. Fait que peut-être parce que c'était du type de même à penser comme ça, puis OK. Il a demandé à Jésus-Christ de voir le Père. Montre-nous le Père, OK, dans Jean 14. Puis d'où Jésus a répondu. La fameuse réponse. C'est quoi la réponse? Quand il a dit « Montre-nous le Père », c'est quoi la réponse de Jésus? « Je suis le chemin et la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Puis, je veux dire... Non, c'est à partir de là, puis là, il a dit « Puis celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est tout dans la même conversation. Il serait mort, apparemment, en 80, après Jésus-Christ, évidemment, pas avant. Ça ne marcherait pas. Soit lapidé, soit beheaded, hein, décapité, ou crucifié à l'envers. Fait que mettons, c'est pas unanime là-dessus, c'est pas clair, parce que justement, des fois, il est confondu avec l'autre Philippe, l'évangéliste. Fait que c'est ça. Son tempérament, non seulement c'est quelqu'un qui était plus réservé que Pierre, même André, on voit, c'est vraiment quelqu'un qui est plus... discret, mais il est du type à poser des questions comme il a demandé à Jésus, puis il a attiré ceux comme lui. Les Grecs étaient des grands poseurs de questions. Les Grecs, ils se questionnaient sur la vie puis tout ça, ben ils sont allés le voir lui, OK? Puis bon, c'était peut-être justement parce qu'il y avait cette culture grecque. C'est là qu'on voit, je pense que de par son nom, puis on voit, c'est peut-être quelqu'un de ce genre-là. Peut-être pour ça même qu'il était quelqu'un qui avait de la sympathie pour ceux qui pouvaient lutter avec des doutes. Nathanaël, hein? Il peut te sortir quelque chose de bon de Nazareth? Ah, viens, je vais te montrer, OK? Peut-être que même lui, tu sais, il pensait, puis ouais, ça se peut-tu, puis ça, bon. Donc, Philippe était quelqu'un probablement doux. Tu sais, quelqu'un de mollo, là, qui ne s'énerve pas trop avec ça. Un peu comme mon beau-frère. Systématique, versé dans les Écritures, parce que quand il dit ça, il dit quelque chose de bon, il n'a pas dit ça juste de même, parce que, un peu comme avec les pharisiens, tu sais, qu'est-ce qui sort de là, tu sais, c'est une question qui venait des Écritures. Avec un esprit critique, là, mais dans le sens positif, là, pas critiqueux, mais un esprit, comme j'ai dit, analytique, critique. Comme Nathanaël, d'ailleurs, puis c'est ça. Tout ça dans le désir de se soumettre à la vérité par le test de l'expérience. Si tu vraiment vrai ce que tu dis, est-ce que ça passe le test? Okay? Donc, c'est ça pour Philippe. Les Philippes qui sont ici, il n'y en a pas juste un, ça se peut que vous avez un tempérament de Philippe. C'est un bon complément au fougueux Pierre-Jean-Jacques. Quelqu'un de plus calmé, puis qui va prendre le temps de penser à ça. Moi, je suis du type plus Pierre-Jean-Jacques, là, tu sais, de réfléchir, après, tu sais, faire la réflexion après parler, après, tu sais, vous me connaissez, là, tu sais, je peux me mettre le pied dans la bouche jusqu'au genou, là. C'est bien d'avoir des gens plus tranquilles qui vont t'aider, OK? Il y a un bon complément entre les deux, OK? L'un qui est fonceur, puis l'autre dit, attends un peu, pense à ton affaire avant de te péter le nez, OK? Donc, mais bien sincère et lui aussi disponible, disposé, avouer, c'est ça, leur manque de connaissances, avoir une foi plus éclairée, d'où la propension à poser des questions. Montre-nous le Père. Puis il voulait essayer de comprendre. C'est quoi que tu es en train de nous dire là? Jésus, pensez pas quand on lit là, le discours de la chambre haute, là, il fronçait les sourcils, là. Il disait, qu'est-ce qui se passe là? Il comprenait pas tout ce qui arrivait. Là, il voyait, OK, c'est le Messie, il va régner, mais là, il lui parle de choses. Je vous prépare une place, puis m'envoie au ciel, puis. c'était dur à tout mettre ça ensemble. Là. Mettez-vous à leur place. Il n'y avait pas toutes les pièces du puzzle comme nous autres. Il y en avait deux, trois morceaux. Puis comment ça fit cette affaire-là? Là? Okay? Donc lui, c'était du type de même justement à se poser des questions, mais à être honnête avec ça puis les poser. Et ça l'amenait comme André vers Jésus tout le temps. Non seulement il amenait les autres à Jésus, André, mais aussi lui-même allait à Jésus et Philippe faisait pareil. Et comme André, c'est une attitude contagieuse. Quand on amène toute chose à la lumière de la parole, quand on amène toute chose au pied du Seigneur, nos questions, nos doutes, c'est une bonne chose, c'est une bonne influence à avoir sur les autres. On est rendu à Barthélemy. Ça veut dire fils de Thomas. OK? Puis c'est lui qui se fait appeler Nathanaël. Il dit, ah ouais, OK. C'est pour ça que des fois, c'est mêlant. Ils ont différents noms parce qu'il y a des surnoms. Donc, Barthélemy, c'était fils de Thomas ou de Thélémy, là, si vous voulez. Là, mais il l'avait surnommé cadeau de Dieu. C'est ça que ça veut dire Nathanaël. OK? Ou don de Dieu, là. Donc, c'est la même personne. Quand vous voyez ces deux noms-là, c'est la même personne. Son nom et son surnom. OK? Lui, on pourrait l'appeler le discret. D'ailleurs, tu sais, on ne sait pas grand-chose sur lui tant que ça. On apprend dans Jean 21 qu'il venait de Cana, en Galilée, okay, là où Jésus a fait son premier miracle. Il est toujours mentionné avec Philippe dans les évangiles. C'est des sidekicks. Ils vont ensemble. OK? Puis, Jésus lui-même a dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc, un bon compliment qu'on voit. C'était quelqu'un d'intégrité. Jésus lui-même a fait remarquer ça. Puis, c'est lui qui pose la question, comme je l'ai dit tantôt. Il peut-tu sortir que... Non, excuse, c'est ça. Philippe, il était avec Philippe, mais c'est... Je me suis trompé tantôt. Je vous ai trompé. Là. C'est lui dans... En fait, on l'a sous les yeux ici. Philippe rencontrant Nathanaël, il lui dit, nous avons trouvé celui dont, de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Voyez-vous sa connaissance d'écriture? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? OK. Donc, c'est lui qui a dit ça. Je me suis trompé tantôt, je pense. En tout cas, désolé, je me suis trompé. Faites un reverse, puis corrigez ça, puis on en revient où qu'on est rendu. OK? À moins que vous voulez que je recommence, je vais-tu vous en dire à partir de là? Non. OK. Donc, Nathanaël, aussitôt que, tu sais, bon, il y avait des doutes, il peut te sortir quelque chose de bon, mais aussitôt que Jésus-Christ a montré sa divinité en disant, je t'ai vu quand tu étais sous le genêt, c'est quoi sa réponse? Oh, Rabbi! Tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. OK, wow. OK, ça n'a pas été long. Il a été convaincu. OK? Donc, ça nous révèle des choses sur son tempérament. Quelqu'un de transparent. OK? Il a dit direct ce qu'il pensait, puis, OK, d'un bord comme de l'autre, quelqu'un de direct. Mais aussi, probablement, calme et retiré. Il était sous son genêt, faisait sa petite affaire. Tu sais, il y a des gens comme ça, plus solitaires. Il était un peu à l'arrière-plan, sous le figuier, puis même dans... On ne le voit pas à l'avant-plan dans les évangiles. Il aurait été crucifié à l'envers après avoir été battu. C'est comme ça qu'il serait mort. Il aurait été prêché l'évangile jusqu'en Inde, selon la tradition. Et il aurait traduit l'évangile de Matthieu dans la langue des... Tu sais, en Inde, il y a bien du monde, là, même à l'époque... Dans la langue, je ne dirais pas en indien, mais dans la langue des gens, ce qu'ils auraient traduit le livre de Matthieu pour leur donner l'évangile. Ensuite, si vous êtes quelqu'un un peu du genre comme avec cette personnalité-là, du type un peu plus, c'est ça, effacé, qui n'aime pas être à l'avant-scène, que vous êtes quelqu'un plus de l'arrière-scène, Dieu vous voit. Dieu vous remarque. Jésus l'a vu sous le genêt. Il y a personne qui échappe au regard de Dieu. Puis Dieu remarque votre cœur. Et donc, il n'y a personne à l'arrière-scène pour Dieu. Et vous pouvez avoir de l'influence et être utilisé dans le plan de Dieu comme il l'a été. Ensuite, on tombe à Matthieu. Matthieu, ça vient du grec qui veut dire don de Dieu. OK? Et on pourrait dire, lui, c'est l'humble. Il est aussi connu sous le nom de Lévi, ok? Probablement de la tribu dans laquelle il était issu, ok? Mais bon, c'est ça, et lui, collecteur d'impôts, un publicain. Sa profession était détestée en Israël parce qu'elle représentait l'occupation puis l'oppression romaine. Ah, vous êtes obligé de payer des taxes, si vous ne payez pas, on vous donne de la misère, ok? C'était ça la job du publicain. Puis en plus, c'était une gang qui était très corrompue. Fait qu'il n'y avait rien pour se faire aimer. Et non, il était vu comme un traître politique. OK? Et c'est l'un des rares apôtres où est-ce qu'on voit son appel dans les évangiles. On l'a vu, en fait, dans Matthieu 9:9. Jésus l'appelle, il est à la table, il l'appelle, puis il laisse tout, puis il suit. C'est aussi répertorié dans Marc puis dans Luc. Il travaillait à Capernaum, on apprend, qu'il travaillait là. Et non seulement il était méprisé pour son travail, okay, le travail de publicain, mais aussi pour la compagnie avec qui il se tenait, surtout le leadership d'Israël. Ah, tu sais, quand Jésus l'a appelé, ils sont allés manger, puis là, ah, il était avec des publicains puis des pécheurs. Je veux dire, c'était pas, il n'y avait rien pour se faire aimer en Israël, ok? Lui qui était même, lui-même juif, mais il n'était pas aimé, ok? Surtout par le leadership d'Israël, on a vu ça dans Matthieu. Et donc, Matthieu, là, il est devenu un peu le symbole de la miséricorde, de la grâce de Dieu. Comment Dieu prend des gens comme ça? Comment Dieu répare des vies? Comment Dieu prend des gens qui sont détestés, puis tout ça? Puis Dieu fait des choses avec eux autres. C'est ce que Dieu a fait avec Matthieu. Si vous voulez, il est devenu une leçon d'objet. Ah oui, Dieu peut prendre des publicains, des gens qu'on peut mépriser tant, puis tout ça. C'était ça le message de la vie, de l'appel de Matthieu. C'est lui qui a écrit l'évangile de Matthieu, et il serait mort sous la lance, sous le leadership de Hyrcanus, demandez-moi pas c'est qui, là, lorsqu'il prêchait en Éthiopie. Donc lui, s'est rendu en Éthiopie. Peut-être qu'il a suivi, peut-être qu'il y a un lien avec l'énuque éthiopien. Puis aussi, il a prêché à travers l'Égypte. Donc, lui, il est allé en Afrique. Son tempérament, pas beaucoup de détails sur ce qu'il dit, ses réactions. Donc, c'est plus dur à connaître un peu. Mais on voit son dévouement pour Dieu que lorsqu'il l'appelle, il laisse tout. Immédiatement, pour suivre Jésus. Et s'il était comme le reste des publicains, là, OK, un escroc, méchant, menteur, ok, c'est pas mal tout ce qu'elle a avec, là. Ben, il est une démonstration de la puissance, de la grâce de Dieu qui transforme la vie, parce qu'il est devenu, il a suivi Jésus, donc, vous savez, tout va avec, là. Il n'est pas resté un escroc. Il y en a un qui est resté escroc, puis c'était Judas, le traître, dont on va parler en terminant. Mais Matthieu, on voit la puissance de Dieu dans sa vie, comme je vous dis, c'est un trophée de la grâce de Dieu. Parmi les apôtres, et certainement ce qu'il gardait dans des positions humbles et reconnaissant envers Dieu. Il savait d'où ce qui était sorti, et certainement que ça le gardait dans la bonne disposition. Si vous êtes un Matthieu avec un arrière-plan du bagage, hein, et des gens qui ont été sauvés d'une vie plus rough, c'est merveilleux, on a notre place auprès de Jésus. Tout le monde qui se repent, qui met sa foi en Jésus, Jésus ne met pas dehors celui qui vient à lui. Matthieu nous montre ça. Même si vous êtes méprisé et tout ça, auprès de Jésus, il y a toujours de la place. Et Dieu aime apprendre des personnes comme ça qui soient des trophées de sa grâce. Et des gens qui sont en compagnie des pécheurs, qui influencent d'autres pécheurs. Si vous êtes un Matthieu comme ça, vous avez des amis qui sont plus rough et dans le passé. Jésus, il s'est fait reprocher, c'est-à-dire que c'est une habitude. « Ah, qu'est-ce que tu fais avec des publicains et des pécheurs? » Parce que Jésus les aimait, puis Jésus allait les chercher. Puis qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, c'est ceux qui sont malades. Donc, Jésus, on voit, il y avait un intérêt spécial pour ces gens-là qui, dans la misère, avaient plus de facilité à reconnaître leur misère au lieu de les religieux et tout ça qui se pensaient corrects. On arrive à Thomas. Non, je n'ai pas fait rire personne. Thomas, là, OK. Et son autre nom, c'est quoi? Didyme. Didyme, ça veut dire jumeau en araméen, OK? Lui, c'est le pessimiste de la gang, OK? Vous allez voir pourquoi. Ou, évidemment, le douteur. Les Anglais disent « doubting Thomas », OK? Donc, notre fameux Thomas, hein, qui est connu, hein, c'est de valeur, il y a à peu près tout ce qu'on se rappelle de lui, mais il y a plus que ça sur lui. Qui, bon, on sait, hein, il dit, ah, si je ne vois la marque dans son côté, dans ses mains, je ne vais pas croire. Et, mais tiens, on va aller voir dans Jean 20. On dit qu'on est dans Jean, on va aller dans Jean 20. Juste voir le récit, comment ça se passe. On va le voir comment il dit ça, là, verset 25. On apprend au verset 24. Bon, on va commencer à 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Je ne vois dans ses mains la marque des clous, et ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Donc, ici, on a ce qui arrive, dans le fond, les incidents autour des doutes de Thomas. Mais rappelons-nous qu'il a fait une belle confession de foi, verset 28, il faut qu'on se rappelle de ça, lui. Ah, OK, il a douté, mais après ça, quand Jésus s'est présenté, il a dit, « Ah, mon Seigneur et mon Dieu! » Et bon, Jésus l'a repris pour son incrédulité. Mais il a cru, par exemple. Il n'est pas resté dans l'incrédulité. Ça n'a pas été ce qui a caractérisé sa vie. Il s'est repenti de ça. Et Jésus avait un intérêt spécial. Il l'a singled out. Il l'a mis et dit, « Thomas, viens ici. Je vais m'occuper de ton incrédulité. » Puis il s'en est occupé. Donc, il a répondu par la foi aux doutes qu'il y avait auparavant. Et maintenant, j'ai quelque chose par rapport à son surnom, Didyme, jumeau. Maintenant, il dit, ben oui, il y avait un jumeau. Oui, ça se peut très bien. Il y en a d'autres qui pensent peut-être qu'il ressemblait tellement à Jésus qu'il l'appelait jumeau parce que c'est pour ça qu'il aurait fallu que Judas dise, c'est celui que je vais, celui que je vais embrasser pour pas qu'il mélange. Parce que quand même, Jésus faisait un bout qui était là puis tout ça. Mais là, bon, ça c'est de la spéculation, là, mais en tout cas, il s'appelait Didyme, soit parce qu'il vraiment, il était un jumeau, ou parce qu'il ressemblait tellement à Jésus que c'était pour être sûr de ne pas se tromper. On voit aussi son pessimisme dans Jean 11, ça c'est un peu drôle, il y a des bouts humoristiques des fois dans la Bible. Un matin, lui aussi, je n'ai souligné un, mais quand il apprend bon, que Lazare est mort, Jean 11, c'est l'histoire là, de Lazare, la résurrection de Lazare. C'est vraiment le pic de l'évangile de Jean. C'est le plus grand de tous les miracles. Puis là, tiens, en tout cas, ça met c'est la goutte qui fait déborder le ventre avec le leadership d'Israël. Jésus attend volontairement 2 jours pour qu'il soit mort et tout ça. Puis on voit, bon, Jésus dit allons-y. Mais c'est un périple dangereux. Là. Quand il dit retournons là-bas, là, il avait déjà été rejeté avant, puis tout ça. Je veux dire, il y a des gens qui voulaient la peau de Jésus, puis pas juste de Jésus. Là. Donc, c'était dangereux d'aller là. Jésus attend, il va, puis en plus, il allait là pour faire une action d'éclat. Les gars ne savaient pas tout ça, mais bon. Puis là, quand Jésus dit « Allons-y, retournons », sûrement Thomas il a pensé au danger, puis il dit « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Hey! Ça, moi, j'appelle ça quand même du commitment. J'appelle ça être engagé. Tu sais, je veux dire, ah, qu'on va aller, puis on va mourir. C'est comme ça que ça va finir. C'est pour ça que je dis, c'est le pessimiste. Allons-y, puis on va mourir avec lui. Lui, tu sais, c'était déjà réglé. Là. On va aller mourir avec lui. Tu sais, c'est pas comme, peut-être qu'on va mourir, lui. Tu sais, il se voyait déjà mort. Puis enfin, une autre chose qu'on apprend aussi sur Thomas, c'est que lors du dernier repas dans la chambre haute, dans Jean 14, Jésus-Christ leur parle de paix, hein, il dit je vous ai préparé une place, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Puis qu'il s'en va, Ça aussi, c'est great. Tu t'en vas où? Je vous dis, il comprenait pas trop, là. Tu n'avais pas toutes mis les pièces du puzzle ensemble. Et là, Thomas de dire, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? C'est là la réponse. Je me suis trompé. C'est au verset 5. Avec des fois, tu sais, je révise mon message. J'avais des petits bouts qui manquaient. Puis c'est là que Jésus donne sa réponse. Nous ne savons pas le chemin. Là, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'était Thomas au verset 5 qui avait demandé. Il avait dit ça, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Je suis le chemin. OK? Et donc, cette réponse qu'on cite souvent, même à des non-sauvés puis tout ça, pour évangéliser. Thomas serait mort, lui aussi percé d'une lance et lui aussi en Inde. Donc, peut-être que c'est ça, il était mis à 1000 à part. Okay? Il serait mort, mais c'est très précis, il serait mort le 3 juillet 72. Donc, ça doit être pas mal plus précis et fiable comme information. C'est ce que j'ai récolté comme information. Ça, c'est pas dans la Bible. Là. On est dans les choses extra-bibliques, mais il y a du monde qui a écrit là, sur les apôtres. Ça, fait que c'est ça. Tempérament, bien sincère, honnête. Hein, il a pas fait semblant qu'il doutait pas. Il était comme... C'est le genre de gars, on dit, hey, what you see is what you get. T'sais, c'est le genre de gars que tu sais ce qu'il pense, puis tout ça. Transparent. Et même, ça le distançait des autres, parce que là, tout le monde, lui, il était pas là, puis tout ça, puis bon... mais jusqu'au temps qu'il arrive à la conviction personnelle, donc c'était pas quelqu'un qui avait ce tempérament-là, mais il restait pas là-dedans. Tu sais, il y a du monde, mais tu sais, le monde pessimiste, je suis pas sûr. Mais quand tu le montres puis qu'il voit, là, ils sont sûrs, puis là, ils sont vendus. T'sais, il était comme ça, Thomas. Thomas, c'était genre à voir le verre à moitié vide. OK? Il était comme ça. Mais tu sais, c'est ça. Il avait foi en Christ. On a vu sa confession ici dans Jean 20, 28. Ça nous fait écouter un peu, oublier un peu son côté lent à croire. Mais aussi, je pense que c'est un gars qui était sujet à l'abattement, au découragement. Puis mourons. Tu sais, un pessimiste, des fois, ça va avec. Tu sais, plus facile à décourager, puis tout ça. Comme je vous dis, le verre à moitié vide. Il se concentrait sur les difficultés de la situation plutôt que comme un Pierre d'être un peu nono puis tout ça puis pas tout comprendre mais foncer la tête en avant. Bon, il couplerait de quelqu'un en passant, mais bon, tu sais, on voit vraiment deux personnalités différentes, OK? Puis on peut dire lui aussi avait un esprit critique, mais quand même constructif en ce que sa pensée c'était, mais là, juste un témoin oculaire, c'est pas assez. Tu sais, on peut dire, il doute, mais en même temps, mais t'as vu ça, c'est-tu vrai, c'est-tu le bon? Tu sais, t'as-tu vu un esprit? Parce qu'il disait ça aussi, t'as juste vu un esprit, puis tout ça. Donc, il voulait vraiment être certain. C'est le genre de gars que ça y prenait du concret, du solide, il voulait être bon. Puis c'est sûr que c'est pour ça que Jésus a dit, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Mais il était comme ça, ce genre de personnalité. Il voulait du solide, du concret. Sur lequel baser sa confiance. Donc, les Thomas qui peuvent être ici, ils diraient, je suis pas pessimiste, je suis réaliste. Puis je pense que Thomas dirait la même affaire, OK? Il serait probablement d'accord. Puis ce qui est beau avec Thomas, je l'ai dit, c'est qu'il n'est pas resté dans le doute, dans le pessimisme. Il est devenu un adorateur. Et quand que c'est ça, c'est à la toute fin. C'est la dernière chose qu'on apprend sur Thomas. Sa belle confession où est-ce qu'il dit mon Seigneur et mon Dieu. Et donc ça c'est pour Thomas. Maintenant, Jacques, fils d'Alphée. Là on pourrait dire le calme, on ne sait pas grand chose sur lui, on l'appelle aussi Jacques le mineur dans Marc 15. Il serait fils, de Marie, c'est tellement mêlant dans la Bible. Dans la Bible il y a tellement de Marie, il y a des Jude, il y a des Jacques. Il faut se démêler, là, mais pas Marie, la mère de Jésus. Okay? Parce que c'est pas le frère de Jésus. Okay? Jésus avait un frère qui s'appelait Jacques, mais c'est pas le même. Okay? Mais c'est mêlant parce que les deux ont une mère qui s'appelle Marie. C'est pour ça que je veux dire, mais ça peut devenir mêlant. C'est ça. On a une indication de ça dans Marc 2,15, où est-ce qu'on voit un autre fils d'Alphée. Et c'est qui? n'y a pas juste Jacques, le mineur, qui est fils de la fille. Matthieu, dans Marc 2,14, Matthieu, fils d'Alphée. C'est probablement deux frères. À moins qu'Alphée, ce soit aussi un nom bien commun, puis bon, mais... on sait qu'on a les fils de Zébédée. Peut-être que Jésus aimait ça prendre des frères. On a Pierre, André et Pierre. Donc, peut-être qu'il y avait trois paires de frères dans les apôtres. Okay? Mais ceux-là, ils passent un peu plus sous couvert. Mais croyez-vous que... Marc, là, on peut aller le voir ensemble. Marc 2,14. On le remarque moins, mais en tout cas, ça c'est drôle qu'il y en ait deux qui aient le même nom du père et qui ne soient pas des frères, là. Ça, il l'appelle Lévi ici, parce que Matthieu, Lévi, c'est le même, là. Donc, Marc 2,14, en passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages, et lui dit, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Donc, il n'y a pas juste Jacques, fils d'Alphée, il y a aussi Lévi, fils d'Alphée. Maintenant, OK. Le leader de l'église de Jérusalem, Jacques, c'est un autre Jacques. Parce qu'on dit Jacques le mineur. Justement, c'est pas l'autre Jacques plus connu, puis c'est ça, qui était un leader dans l'église de Jérusalem, celui qui est mort. C'est que ça dit dans Galates 2,9 que c'est un des piliers de l'église. Pierre-Jean-Jacques vraiment était des piliers. Et donc, c'est ça, c'est pas le même Jacques. Il serait mort crucifié en Égypte, où il prêchait lui aussi. Donc, lui aussi est allé en Afrique pour prêcher l'Évangile. OK? Puis, vu qu'il figure seulement, tu sais, ici, Jacques le mineur, fils d'Alphée, il est seulement dans des listes. On le voit pas en action, on le voit pas parler, fait qu'on connaît pas grand-chose sur lui, sur son caractère. Sauf par les traditions puis les écrits extra-bibliques qui disent qu'il serait quelqu'un qui était calme et humble, justement, tu sais, pas à l'avant-plan. Donc, ça irait bien avec son sobriquet, là, comment qu'il l'appelait, Jacques, le mineur ou le moine, James the Less, en anglais, ça dit. Ça te garde humble quand tu fais... Hey, le moine! Le moindre, le mineur. C'est ça. Donc, c'est drôle qu'il était qualifié comme ça, mais souvent, il faisait ça aussi, comme il y avait des dons de Dieu. « Ah, toi, t'es un don de Dieu, Nathanaël, on est tellement contents. » Fait que là, il dit, « Toi, genre, t'es mineur. » Je veux dire, t'es low profile. En tout cas, peut-être que dans la culture d'être direct de même. Là. Peut-être qu'il y avait un petit côté roumain. Les Roumains sont de même aussi. T'sais, genre, là, t'es plus le mineur. T'es défensif. En tout cas... Mais tant que ça ne le dérangeait même pas, je pense que, tu sais, justement, lui, ça ne le dérangeait pas de ne pas être le big shot, puis tout ça. Puis il y a des gens qui ont cette personnalité, je ne veux pas être big shot, je veux juste faire mon affaire, j'ai affaire, puis en fait, je suis bien confortable là. Puis c'est quoi? Ça aussi, ça fait partie, Dieu utilise du monde de même. S'il fallait que tout le monde soit à l'avant-plan, ça serait vraiment tannant. S'il y avait juste des Pierre, des Jean, puis des Jacques, là, ça donnerait des drôles d'église, OK? Puis je ne suis pas parce qu'il était content... de la médiocrité. Mais il était juste content de ne pas être à l'avant-plan. Puis il avait sa place là, lui aussi, plus à l'ombre. Okay? Un peu comme Paul qui dit « J'ai appris à être content dans l'abaissement, dans l'élévation. » Mais lui, il était plus abaissé. Puis d'ailleurs, ça dit dans la Bible, ça parle de l'humilité, tu sais, que ceux qui acceptent d'être plus bas, que c'est une bonne qualité spirituelle de l'humilité. Ensuite, on arrive à Simon le Zélote, où Adopla, ça dit Simon le Cananaïte, il venait de Canaan, Cana, c'est-à-dire, donc le zélote, on peut dire la tête forte, strong-willed, parce que il faisait partie d'un groupe politique fanatique, okay, qui voulait par la force se révolter contre Rome, ok? Et il s'attendait à ce que le Messie fasse ça, que le Messie renverse Rome avec violence. Tant que c'est à ça que Satan a souvent Jésus, je pense qu'il y a peut-être, au niveau de la doctrine, il a dû être rectifié là-dessus, là, mais là, qu'ils vont dire, ah non, zélote, ça voulait dire qu'il était zélé pour le Seigneur, zélé pour la loi, mais quand on comprend, l'histoire, c'était un mouvement politique qui vraiment était, c'est ça. Donc, C'est ça qui le démarque vraiment. C'est comme lui aussi, on ne sait pas, mais juste le savoir qu'il est un zélote, ça nous montre quelque chose sur lui. C'était peut-être un gars du genre radical, t'sais. Noir ou blanc, il n'y a pas d'opinion gris. Il était prompt à prendre les choses en main par la force, OK? Faut y aller de la manière forte. Au grand mot, les grands remèdes. Tant que même, tu sais, le genre de gars était à côté de Pierre, Pierre, il faut faire de quoi, puis Pierre a sorti son. Tu sais, genre de gars de mettre, tu mets ça ensemble, faut faire attention, ça peut donner des mélanges explosifs, tu sais. Il faut faire de quoi, puis mon Pierre qui sort son épée, là, tu sais. C'est ça. Parce que lui, hey, wow, le Rome sont en train de nous prendre, c'est le Messie, on va pas se laisser faire, comprenez-vous, c'était sa pensée, là, tu sais. Faut faire de quoi, faut prendre les choses en main. Puis je crois que Jésus a choisi Simon le Zélote pour être auprès de lui, dans les 12 apôtres, pour lui enseigner comment son royaume, ça marche. T'es un Zélote, tu veux prendre les choses en main, ça marche pas de même. Tu veux combattre avec les armes charnelles, dans mon royaume, dans la guerre spirituelle, nos armes ne sont pas charnelles, mais sont puissantes en Dieu pour renverser les forteresses. OK? Puis donc, Jésus faisait tout avec un but pour l'enseigner à lui, puis aussi de l'enseigner aux autres. Voyez-vous, un zélote, là, ça ne marche pas dans mon royaume. Voyez-vous, même, à ma tante, on a parlé. Ah, on voit les choses dans le monde, tout ça. La solution, c'est pas de faire des révoltes ou, tu sais. La solution, c'est les armes spirituelles. C'est l'évangile. Parce que, comme on disait quand même, qu'on offrait tout un monde meilleur, puis tout ça, puis comme l'antéchrist va essayer de faire aussi, puis ça ne marchera pas plus. Si on s'en va en enfer, au bout du compte, ça sert à quoi? Donc, les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu. Et donc, bon enseignement pour ceux ici. Moi, je ne suis pas le même du tout. Hein, qui ont tendance à vouloir prendre les choses en main, tu sais. Faut laisser Dieu travailler à la façon dont Dieu travaille, OK? Je suis content que Dieu a pris lui, puis il a montré sa grâce, sa patience, son amour avec des gens comme ça un peu plus rudes, crus, rough. Il les raffine, il les transforme par le renouvellement de l'intelligence, puis il les conduit sur le chemin de la croix et de l'abnégation. C'est ce que Dieu fait avec des zélotes. Il transforme le zèle pour que ça soit le bon zèle pour le Seigneur. Et comme je dis, c'est bien important dans un temps comme dans lequel on est de se rappeler ça. Dieu n'a pas besoin d'agitateurs politiques, il a besoin de guerriers dans la guerre spirituelle. OK. Donc, ça nous amène à Thaddée, qui est l'avant-dernier. Thaddée, qui est appelé aussi juste dans Jean 19, ça dit Jude, non l'Iscariote. OK? Parce qu'encore là, Jude, c'est tellement commun. Peut-être qu'il l'appelait Thaddée, je ne sais pas. Thaddée, en grec, ça veut dire grand cœur ou courageux. OK? Il est aussi appelé Jude, fils de Jacques. Ce qui ne nous démêle pas des deux autres qui sont fils de Jacques aussi. Je vous dis, là, tu sais, il n'était pas très original, ces noms, dans les évangiles. Certains pensent que c'est le même Jude qui a écrit l'épître de Jude, qui serait le frère de Jésus. Mais ça ne pourrait pas vraiment marcher parce que ce frère-là, tu sais, il y avait des frères de Jésus là, dans Jean 7, puis il était incrédule. Fait que tu sais, il n'aurait pas pu être un tu sais, Jésus n'avait pas un de ses frères comme apôtre, donc c'est un autre Jude. Mais comment c'est ça, tu sais, des Jude, des Marie, des Simon, des. Je veux dire, il y en a à pelleter, là. Donc c'est ça, mais c'est pas le même. C'est des noms bien communs en Israël, mais c'est ça, c'est pas, faut les distinguer. Son tempérament, le surnom Thaddée, qui veut dire grand cœur ou courageux, nous donne une bonne idée. C'est peut-être justement quelqu'un, tu sais, on dit en français le cœur sans main, puis tout ça, personnalité attirante, quelqu'un qui est prêt à aider, puis tout ça, et disposé. Et c'est un sujet qui était probablement connu pour ça. C'était sa réputation d'être le gars au grand cœur. Okay? On apprend aussi de lui dans Jean 14, 22. Il pose une question à Jésus, la seule qu'on connaît à son sujet. C'est la seule chose qu'on sait de sur lui plus que son nom. C'est là qu'il est appelé Judas, Jude, non l'Iscariote. Par rapport au fait qu'il s'est fait connaître à eux et non au monde. Hein, il dit comment? Ben tiens, on va aller voir, on va aller le lire. Jean 14. Il y a beaucoup de références aux apôtres dans Jean. Jude, non pas l'Iscariote. Jean 14, 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? OK? Et Jésus de répondre au verset 23 et 24, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, on pose une question qui a amené plus de lumière sur qui est Jésus et tout ça. Donc, c'est ça. On sait ça de lui. C'était quelqu'un comme ça qui, lui aussi, posait des questions. Maintenant, il avait une belle réputation. Une réputation d'avoir un grand cœur. C'est une bonne réputation. C'est quoi ta réputation? Pourquoi tu es connu? Es-tu connu pour un grand cœur, pour chialer, pour je ne sais pas si, ou en tout cas... c'est bon d'avoir le livre des Proverbes nous parle d'une bonne réputation, comment c'est valable. Puis je dirais, en ce moment aussi, c'est connu, c'est important d'être connu pour quelqu'un qui prêche Christ, pour quelqu'un qui le fait connaître, pour quelqu'un qui... Puis là, on peut résumer avec les autres apôtres, tu sais, quelqu'un qui va conduire à Christ, quelqu'un qui va poser des bonnes questions, quelqu'un qui surmonte le doute, qui ne va pas rester dans le doute, mais qui va amener ça à Jésus. OK? On a besoin de ça en ce moment. OK? Et c'est le genre de qualité spirituelle que Dieu utilise pour lui. Et l'idée aussi de grand cœur, c'est aussi l'idée de courageux. Probablement que ça faisait aussi partie de ses qualités spirituelles. Oh, et comment on a besoin hein, en ce moment aussi? Mes amis, plus que jamais, on a besoin d'être courageux. Je crois que c'est Dieu qui fait, on dit Dieu est bon, Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Et Dieu en ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, ça dit dans Éphésiens 4, 15, qu'il faut prêcher la vérité dans l'amour. Professant la vérité dans l'amour. Littéralement, vérité, c'est un verbe. Véritons dans l'amour. J'ai déjà dit ça, OK? Ça ne se dit pas en français, mais l'idée, c'est incarner la vérité, tu sais, être tout de vérité dans notre vie, dans l'amour. Et pour ça, ça prend du courage. Pour être fidèle à la vérité, il faut être courageux, OK? Mais pour pas tout mettre le monde à dos, puis arriver avec notre gros 2x4 de vérité, puis assommer le monde, ça prend l'amour. La vérité, ça prend du courage, et ça prend de la compassion. Ça prend les deux. Et je pense qu'on peut trouver ça juste dans le nom ici. Il était un grand cœur. Je pense que c'était quelqu'un qui était justement, il était courageux. Maintenant, il avait un grand cœur. Et mes amis, on a tellement besoin de ça en ce moment. Parce qu'au bout du compte, avec tout ce qui arrive, il y a bien des affaires qui nous font peur, qu'on ne sait pas trop ce qui va arriver. Mais par la foi, on croit que Dieu, il va s'occuper de ça. Nous, notre rôle, c'est de se tenir pour lui, pour la vérité, dans l'amour. On ne veut pas rentrer dans la haine qu'il y a dans le monde. Vous savez qu'il y a beaucoup d'attisation à la haine aussi avec tout ce qu'on vit en ce moment. Là. Que les masques à X, les pas de masques, puis que les ci, puis tu sais, il y a tout ça... C'est comme si on voit comme une réingénierie sociale où est-ce que c'est comme des groupes qui se montent un contre l'autre de plus en plus, tu sais, puis ça hire l'un l'autre. Un chrétien n'est même pas dans ce game-là. Il est complètement à part. C'est quoi ça veut dire? Ecclésia, église, appelé hors d'eux. On n'est même pas là-dedans. Nous, on se bat sur un autre terrain. Nos armes avec lesquelles on combat sont pas charnelles, sont puissantes en Dieu. On proclame la vérité dans l'amour. On a le courage de le faire et la compassion de le faire parce qu'on sait c'est ça que les gens ont besoin. Les gens n'ont pas besoin qu'il n'y ait plus de problèmes puis qu'on n'ait plus de masques. Puis on n'aime pas les masques, on n'aime pas les mesures, puis c'est injuste, puis il y a bien des affaires qui ne marchent pas là-dedans. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. C'est que les gens soient réconciliés avec Dieu. Ça finit mal. Mais il est le 12e, il est tout le temps nommé en dernier. Peut-être que j'aurais dû inverser. Là, je terminais bien avec un appel au courage puis à la compassion, mais ça finit avec Judas Iscariote, le traître. Son nom Iscariote vient de sa ville natale Kéroth en Judée, près d'Hébron. Okay? Et ça veut dire qu'il est le seul qui n'est pas galiléen. Okay? Qui n'est pas de la Galilée méprisée. Vous rappelez-vous, on a dit la Galilée, c'était vraiment pas... Dans l'estime des Israélites, la Galilée, c'était pas grand-chose. Mais au contraire, la Judée était beaucoup plus huppée. Okay? D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il avait son amour de l'argent. Tu sais, il y avait plus de commodité, de luxe et tout ça. C'est de là qu'il venait Judas. Probablement qu'il était considéré comme étant bon avec l'argent. Pour ça qu'ils ont confié la bourse. Mais on apprend plus tard que non, il était pas bon. Il était bon pour tromper avec l'argent parce qu'on apprend. Jean dit, il est un voleur. OK? C'est où la référence qui dit ça? Dans Jean 12. On apprend que c'est lui qui gardait l'argent. Puis tu sais, quand il s'est insurgé, oh, on aurait pu garder ça. Mais ça, c'est la Bible. Dans Jean, ça nous dit qu'il était un voleur. Mais aussi, il était tout qu'un trompeur. OK? Pourquoi? Parce que la majorité des personnes étaient d'accord pour dire que il était fiable pour ça, mais il a trompé tout le monde. Mais, probablement que ce qu'il contrôlait, lui, c'était le matérialisme, l'amour de l'argent. Et c'est pour ça que c'est ça qu'on a ce verdict-là sur lui, puis aussi probablement ce qui l'a motivé à trahir Jésus. Pour le prix d'un esclave, 30 sicles d'argent, c'était le prix qu'on donnait pour un esclave. Amenez-vous celui qui a suivi le Fils de Dieu pendant 3 ans de levant. C'est incroyable, la dureté du cœur humain. Donc, Judas était ce parfait acteur qui a trompé tout le monde, sauf Jésus, évidemment. Pendant 3 ans, il faut le faire pareil, là. C'était pas comme s'il se voyait une fois par semaine à l'église. Il était tout le temps ensemble, il faisait tout ensemble. Il a trompé tout le monde pendant 3 ans. Ça a donné sa vie au bout du compte. Il est mort tragiquement. On connaît tous comment il est mort, mais il est mort aussi avec des remords sans repentance. C'est pas rien que la Bible nous dit que l'amour est la racine de tous les maux. Ceux qui veulent s'enrichir vont tomber dans bien des pièges. Et c'est ce qui est arrivé avec Judas. Le problème, c'est que quand le désir pour l'argent, le désir pour tout ce que l'argent donne, domine, dirige nos cœurs, nos vies, c'est la voie certaine vers la destruction. Quelqu'un a dit, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un terrible maître. Et c'est ce qui est arrivé avec Judas. Attention pour ceux qui peuvent avoir cette tendance à aimer ce que l'argent peut donner et tout ça. Parce que le train de ce monde, parce qu'avec l'argent on peut avoir les choses de ce monde, mais le train de ce monde s'en va vers son autodestruction. Et c'est pas une bonne fin pour ceux qui sont comme ça. Maintenant, je voudrais qu'on retienne ceci de ce qu'on a vu des 12 apôtres. J'ai terminé mon message, mais les 12 apôtres, Dieu, dans leur vie, c'est lui qui a fait toute la différence. Vous savez, c'était des gens bien ordinaires. Il y avait différents rôles, ils étaient très différents au niveau des personnalités. Certains se ressemblaient, certains étaient des frères, ils étaient de la même famille. Mais Dieu avait un but avec chacun. Il voulait se glorifier dans leur vie. Que ce soit comme quelqu'un qui avait un gros passé comme Matthieu, que ce soit quelqu'un qui était bien ordinaire, bien low profile comme un Jacques le mineur, puis tout ça, ou d'autres comme ça. Dieu voulait, peu importe c'est qui l'instrument, Dieu voulait se manifester à travers eux autres. Et chacun avait leur prière spécifique à leur personnalité. Les gens avec la personnalité forte, il fallait qu'ils se calment le pompon. Ceux qui étaient effacés, il fallait qu'ils n'aient pas peur de faire confiance à Dieu pour prendre les devants lorsque Dieu les amenait à faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Chacun devait dépendre du Saint-Esprit. Quand Jésus est parti, il leur a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Chacun devait dépendre pour grandir, pour la force, pour ce que Dieu voulait pour eux autres. Donc, c'était tous des gens bien différents, mais ils avaient tout en commun. De dépendre de Dieu. Et voici ce que je veux qu'on retienne juste comme leçon générale avec tout ça. C'est des personnes bien ordinaires, OK? Mais ils ont été en relation avec Dieu, que c'était vrai, que c'était pas juste des beaux discours et tout ça. Il y avait une foi, il y avait un attachement à Dieu qui a permis à Dieu de faire l'extraordinaire avec eux autres. C'est ça le point. Tu sais, des gens, des Galiléens, c'est vraiment, il y avait tout pour être ordinaire. Puis d'autres, tu sais, comme Simon Zélote, là, qui voulait tout prendre en main. Dieu a pris du monde de même. Puis il a fait quelque chose d'extraordinaire avec eux autres. Puis encore, en 2020, avec l'Église de Jésus-Christ, Dieu veut prendre du monde bien ordinaire, comme nous autres. J'entendais un prédicateur dernièrement dire, « On n'est pas aussi spécial qu'on pense. On n'est pas aussi important qu'on pense. » C'est vrai. On est juste quelqu'un de bien ordinaire. Des fois, on aime ça se donner de l'importance. Mais on n'a pas d'importance. Sauf l'importance que Dieu nous donne. Si on est un enfant de Dieu, on fait partie de son grand plan rédempteur. Et peu importe comment qu'on est, avec les personnalités qu'on a, c'est pas ça la question, c'est est-ce qu'on est disposé, est-ce qu'on est dépendant de lui pour le laisser faire ce qu'il veut faire dans nos vies? Est-ce que dans mon ordinarité, et ça c'est pas bien ben français, là, je laisse Dieu faire l'extraordinaire? Pas parce que je veux flasher, pas parce que je veux... Parce que mon Dieu est glorieux, parce que mon Dieu, il est capable. On a le Dieu extraordinaire. Pourquoi qu'on se contenterait du médiocre dans nos vies? Comprenez-vous? Ces gens-là, littéralement, on a vu à travers ce que j'ai dit, ils ont viré le monde à l'envers. Pas parce qu'ils étaient... Puis ils étaient 12. Bon, il y avait d'autres autour d'eux autres, là. Mais ces gens, c'est ça que Dieu utilise. C'est comme ça que Dieu travaille. Puis si on est une nation comme on est aujourd'hui, puis bon, on sait que ça s'effrite, tout ça, mais... L'Occident, comment il est, comment ça a été la plus grande bénédiction de l'humanité. Bon, il y avait Israël avant et tout ça, mais ça s'est décuplé avec le christianisme, l'Église, parce que là, ça a été partout dans les nations. C'est juste parce que Dieu a pris du monde ordinaire, comme eux autres, parce que ça l'a continué après, là, tous les disciples, des gens ordinaires pour faire quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu n'a pas fini. Et on est dans les circonstances, comme dirait M. Côté, c'est à notre tour d'être sur la glace. Les patins sont dans nos pieds. Puis là, Dieu veut qu'on avance en lui faisant confiance. Pour faire des choses extraordinaires. C'est quoi? Dieu veut sauver du monde au Québec. C'est quoi? Dieu veut restaurer des vies, veut restaurer des familles. Dieu veut... il veut faire des choses que juste lui peut faire. Puis il veut nous utiliser. Mais tout ce qu'on apprend avec les apôtres, c'est... Ils disent en anglais, it's not about you. C'est pas par rapport à toi. Parce que justement, il n'y avait rien de spécial avec eux autres. Et pour nous, c'est la même affaire. Je veux, en regardant, je vous avais dit, on n'avait jamais fait ça. C'est un peu spécial, c'est nouveau un peu pour moi de prêcher comme ça, en considérant des personnes comme ça. Mais qu'on voit, c'est pas parce qu'il n'y avait rien de spécial ou de ça, c'est parce que Dieu les a saisis puis Dieu a fait quelque chose avec eux autres. Que notre prière. Et jamais on va prendre un temps de prière. Dieu dans ce qu'on a d'ordinaire, dans ce qu'on est là où on est, on n'a peut-être rien de spécial, mais Dieu, toi, glorifie ton nom. Fais quelque chose d'extraordinaire. Dieu, je suis disponible. Je suis docile entre tes mains pour que tu fasses, toi, le Dieu de l'extraordinaire, quelque chose d'extraordinaire dans mes... Je crois. Viens au secours de mon incrédule. Un petit côté Thomas, un côté pessimiste, mais dis-tu quoi? Mon Seigneur et mon Dieu, je t'adore parce que je crois que tu es capable de faire ça. Amen.
Amen.
Je vais prier, puis ensuite, je vais vous laisser prier. Seigneur, on te remercie de ce que on a pu faire une brève intrusion dans la vie de celui qui était aux côtés de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Et certainement, le personnage principal, c'est Jésus-Christ. Et en fait, ils ont été spectateurs de voir, d'avoir le privilège de voir le Fils de Dieu lui-même venu sur terre. Ah, et Seigneur, merci que tu t'es glorifié dans des personnes ordinaires, communes, et même méprisées, que tu as fait des choses extraordinaires. Seigneur, encore aujourd'hui, on bénéficie de ce que tu as fait à travers ces vases de terre, ces gens qui t'ont juste laissé faire, qu'on soit de la même disposition ce soir. C'est vraiment pas par rapport à nous. C'est pas si on est bon, si on n'est pas bon, si on n'est pas capable, si on est capable. C'est vraiment toi, Seigneur. Alors, on s'en remet entre tes mains, Seigneur. Dirige ce temps de prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors,